Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux L.
Bonjour à toutes et tous. J'ai plaisir à la retrouver. Je dis la retrouver parce que c'est un auteur féminin que j'aime beaucoup. Elle nous embarque toujours dans des histoires fabuleuses. C'est, je dirais, l'une des meilleures dans la qualité de romancière historique. À travers plusieurs best-sellers, traduits maintenant dans plus de 15 langues, elle nous ravit toujours avec ses histoires, toujours basées sur la réalité historique. Alors le livre dont nous allons parler aujourd'hui avec Mireille Calmel, c'est une histoire très particulière, avec une ambiance bien particulière, un thriller médiéval, époustouflant, qui nous embarque et quand l'on débarque, c'est-à-dire quand le livre est fini, eh bien cela nous laisse un petit peu pantois, voire matois. Bonjour Mireille Calmel.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour votre dernier ouvrage, La prisonnière du diable, aux éditions IXO. Alors, je suis sûre qu'on n'a pas besoin de vous présenter auprès des auditrices et auditeurs de ces deux ailes qui vous ont tous lu au moins une fois au travers de romans, de vos romans historiques.
Alors là, oui, il en reste sûrement encore, en tous les cas, qu'ils soient lecteurs ou pas, je les salue bien bas.
Voilà, et puis c'est l'occasion justement de vous découvrir s'ils ne vous connaissent pas au travers de ce livre, La prisonnière du diable. Alors, prisonnière et diable, vous allez voir, c'est quelque chose quand même, c'est tonitruant. Nous sommes à la fin du XVe siècle, 1494, alors un peu en Égypte et puis tout à coup sur les hauteurs de Nice. Alors expliquez-nous ce lien à quelques kilomètres de différence, c'est tout.
Hein. Oui, quelques-uns, on va dire ça, oui. Alors effectivement, le livre démarre en Égypte, oui. Dans une crypte secrète, oui. Et on est face à une roue de pierre qui tourne depuis la nuit des temps. Une roue qui de temps en temps s'arrête, elle est gardée par des femmes, mais de temps en temps elle s'arrête et sur sa tranche apparaît un nom, une date et un lieu, le nom de la personne qui doit mourir, pas pour ce qu'elle a fait, mais parce qu'elle est devenue la prisonnière du diable. Et bizarrement, n'est-ce pas, quelques mois plus tard, oui. Donc en juin 1494, sur les hauteurs de Nice, un petit village au milieu des montagnes, une de ces femmes qui fait Hersande. Partie de la sororité, donc Hersande, qui s'occupe, qui veille sur le sanctuaire Notre-Dame, oui. Reçoit le message de la roue et elle l'attend depuis qu'elle est toute jeune. Ça fait partie de ces inspirations que l'on a quand on a une quête, donc se dire peut-être un jour je serai choisie pour porter ce message à l'exécuteur, oui. Et satisfaire à l'exigence divine pour sauver le monde. Sauf qu'elle décachète le billet et que le nom qui figure sur ce billet...
La terrifie.
La terrifie parce que c'est forcément le nom qui ne devrait pas s'y trouver.
Et oui. Alors, on ne va pas dire quoi, quand, comment.
Hein. Bien sûr que non.
On va tourner autour du pot parce que, bien sûr, le livre, c'est une belle énigme. Hein, donc, on va tenter d'aborder les choses, mais prudemment, dirais-je. Alors, il paraît que cette roue existerait depuis la nuit des temps. Bon. Il est fait mention dans certains textes, certains en ont vu la trace mentionnée dans certains textes. C'est la roue du temps, c'est la roue de la vie.
Cette roue fait partie effectivement de toutes les légendes. On la retrouve dans de nombreuses civilisations et la plus ancienne mention date de l'époque sumérienne. Donc vous voyez, oui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Non. Évidemment, à cette époque-là, on ne parlait pas de Dieu et du diable. On parlait simplement du bien et du mal. Oui. Il fallait délivrer la terre du mal qui, brusquement, s'était incarné. Mm-hmm. Alors, il y a quelques variantes de cette roue. On parle d'un métier à tisser dans le nord de l'Inde. Voilà. Donc, mais effectivement, il y a toujours la trace de cette exigence divine qui fait qu'à un moment donné, on va devoir éliminer le mal pour que le bien survive. Mmh. Et je me suis évidemment emparée de cette histoire de manière peu protocolaire.
Alors justement, ce qui m'intéresse, c'est comment avez-vous eu vent de cette roue ? Alors, je sais que votre fille est ethnologue, hein, d'une certaine...
Oui, ethnocénologue. Voilà.
Ethnocénologue.
Oui, donc, ma fille adoptive.
Voilà, vous a-t-elle aidée justement ? Alors, comment s'est passée cette rencontre avec la roue ?
Voilà. Alors, la rencontre avec la roue, elle est venue comme chaque fois, comme chacun de mes livres, oui. grâce à un rêve récurrent qui peu à peu a pris corps, a oui. pris place et est devenu de plus en plus obsédant avec des noms, des dates, des lieux et l'image de cette roue. Donc effectivement, j'ai posé pas mal de questions à une amie qui est historienne des civilisations, oui. à ma fille adoptive mmh. qui elle est ethnocénologue oui. et qui m'a permis, bon voilà, donc ça m'a permis grâce à plusieurs personnes de retrouver trace de cette roue mmh. et puis surtout de découvrir qu'il était fait mention de la visite du diable à Utel, ce fameux juin 1494.
Alors, on disait donc Ersand. Alors, dans tous vos livres, ce sont toutes des femmes courageuses, engagées, qui font face souvent à des choses insoupçonnées, insoupçonnables. Alors, Ersand, quelque part, donc, elle s'occupe de Notre-Dame. Elle est herboriste aussi.
Elle est herboriste. C'est une, effectivement la révérende mère de ou la prieure, en plus exactement, du petit prieuré de Notre-Dame d'Utel. Mmh. Oui. Elle a donc cette espèce d'attente qui pour elle est une bénédiction, évidemment, et elle ne s'attend pas à ce que cette bénédiction soit tout sauf quelque chose d'extrêmement puissant pour elle et extrêmement porteur. Or là, on se retrouve dans un petit village de montagne avec où tout le monde a ses secrets, où, oui. Où tout le monde a quelque chose à cacher, à porter, à cacher oui. y compris Ersand d'ailleurs. Oui. Et brusquement, vous voyez, c'est cette espèce d'étau qui fait que vous avez le village d'un côté, juste au-dessus, sur les prants rocheux, vous avez le sanctuaire, donc mm-hmm. Les deux se regardent. Mm-hmm. Et n'importe qui dans le village ou dans le sanctuaire peut à la fois être l'exécuteur et la victime, ou oui. la victime. Mmh. Et du coup, ça crée une atmosphère bien particulière et propre à ce livre-là, de tension permanente, oui. où tout le monde a effectivement quelque chose à cacher, mais Ersand n'est pas la seule, et n'est surtout pas la seule de ces femmes fortes et courageuses qui ont un rôle prépondérant dans l'histoire. Mmh.
Alors, il ne faut pas oublier aussi qu'en cette fin de 15e siècle, comment dirais-je, les tabous, les non-dits, la sorcellerie, tout ça aussi joue aussi un rôle. Hein. C'est très noir, c'est assez nébuleux. Les gens croient à tout et à n'importe quoi, et surtout pas au rationnel, en plus.
Ah, surtout pas au rationnel, non, bien sûr, on est encore dans cette période-là où tout est trouble et où le oui. mystérieux et où se rapproche du magique. Alors évidemment, vous savez que je fais jamais de la magie, pour faire de la magie, ça ne m'intéresse pas. Oui. Ce qui m'intéresse, ce sont les légendes oui. et jusqu'où on peut aller dans la légende pour ramener le lecteur dans la réalité. Oui. Donc évidemment, il n'y a pas d'effets spéciaux à la Harry Potter, même si j'adore Harry Potter.
Oui.
Mais là, on est dans l'historique oui. et tout ce que je vous raconte repose sur des faits réels. Tout mmh. comme Ersand est un personnage qui a existé, oui. tout comme Myriam, on n'a pas parlé oui. de Myriam encore, mmh. mais qui est un des personnages phares de ce livre. Oui. D'abord parce que c'est une jeune maman qui a deux enfants, qui est enceinte et à terme du troisième, qui vient de perdre son mari. Donc, il est dans une situation inextricable parce qu'elle est obligée de travailler deux fois plus parce qu'elle doit de l'argent au baron, qui lui aussi a des choses à cacher, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Et donc, elle se retrouve dans cette espèce d'atmosphère extrêmement, j'allais dire, contemporaine où il faut qu'elle travaille dur alors qu'elle est prête à accoucher pour nourrir sa famille et pour garder sa maison. Donc, si vous voulez, on est à la fois au 15e siècle et à la fois on est presque aujourd'hui avec quelque chose qui nous ressemble. Cette femme-là, elle nous ressemble, elle est dans son combat oui, de femme, dans son combat vrai. De mère courage, oui. et elle découvre là brusquement, avec l'arrivée de la messagère, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé trouver.
Mm-hmm. Alors, je sais que vous êtes d'une certaine façon attachée aux légendes, mais vous pensez que dans chaque légende, il y a de toute façon une part de vérité.
Bien sûr. Quand on remonte aux sources de la légende, on s'aperçoit très vite qu'il y a un fondement, bien évidemment. Après, tout dépend de la manière dont on l'utilise, si on veut en faire véritablement de la fantaisie, mais toute la fantaisie qu'on connaît aujourd'hui, de toute façon, est née d'une légende à un moment ou un autre. Hein. La fantaisie arthurienne est née de l'histoire d'Arthur. Mais l'histoire d'Arthur est née de manuscrits qu'on a découverts, qu'un moine a découvert à Tintagel, manuscrits que j'ai pu voir. Hein, donc, donc je sais qu'ils existent. Et la légende d'Excalibur, est rattachée à l'histoire, à la véritable histoire, des rois de Bretagne, puis d'Aliénor. Donc, vous voyez, tout est lié. Et cette légende de la roue, même si à un moment donné, on peut la mettre en cause, évidemment, comme toutes les légendes.
Bien sûr.
Il n'empêche que quelque chose s'est passé à Utelle, et quelque chose d'extrêmement violent à ce moment-là, qui a mis en scène et qui a mis en cause ces personnages réels dont je parle, que ce soit le prieur Grimaldi, qui est donc l'ancêtre des Grimaldi de Monaco.
Grimaldi du Rocher de Monaco.
Le baron Raphaël, qui
est tout puissant, mais qui a beaucoup de choses à se reprocher aussi.
Qui était très proche des ducs de Savoie. Enfin, moi, je me dis Hersant, mais on a aussi Benoît, le tailleur de pierre, qui est en train de restaurer l'église du village au moment des événements, avec d'autres artisans. Tout ce panel de personnages sont réels, ont été confrontés à cette approche du diable, dans cette diabolisation historique.
Oui.
Et à la fois, il fallait lui donner une couleur particulière, parce que vous savez qu'avec moi, il est hors de question que ça se finisse mal.
Je sais bien. C'est ça, en fait. Vous nous faites frissonner pendant X pages, et puis finalement, la délivrance n'en est que meilleure, dirais-je.
Voilà, mais à un moment donné, ça ne veut pas dire ne pas sacrifier. Hein. Ça ne veut pas dire que ceux qui meurent, malheureusement, dans la réalité historique, ne meurent pas dans mes livres. J'aimerais pouvoir les sauver parfois, mais...
Et oui, ce serait pas mal.
Ce serait pas logique.
Ce serait pas juste.
Je ne pourrais pas, mais croyez-moi, ça me démange souvent.
J'imagine.
Donc là, on est vraiment dans cette espèce d'atmosphère un peu particulière, et en même temps, c'est pas l'atmosphère froide de l'hiver, on est au printemps. La nature explose. Magnifique. On est au mois de juin.
Oui.
Donc on est le 21. Voilà, on est au moment vraiment de l'été. On aborde l'été et quelque part c'est tellement, si vous voulez, fort ce renouveau de la nature, cette magie de la nature, qu'on ne s'attend pas à ce moment-là aux événements qui vont se produire.
Alors j'espère que nos auditrices et auditeurs vont s'attendre à cette petite pause musicale que nous allons faire, et on se retrouve tout de suite après. Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ses deux ailes avec Mary Calmel pour son dernier ouvrage La prisonnière du diable aux éditions IXO. Alors, on le disait, c'est difficile de parler du livre hein, sans révéler un tas de choses, donc on tourne un petit peu autour des choses. Ce qui est bien aussi dans ce livre, c'est qu'on voit un petit peu ce que fait chacun. Mon Hersan, de Myriam, on parlait tout à l'heure de Benoît, ce tailleur de pierre. Ce sont des tailleurs de pierre, on s'y adonne un petit peu parce que au XVe siècle, c'était très important, on construisait des églises. Bon, les cathédrales, oui. Ça faisait déjà 400 ans hein, qu'elles existaient. Oui. Mais ces tailleurs de pierre, c'était quand même des maîtres dans l'art parce que c'était terriblement difficile et ils faisaient des choses magnifiques. Et c'était un métier et Benoît a toute son importance aussi dans votre histoire.
Oui. Oui, oui. Alors évidemment, faut pas déflorer. Mais oui, il a son importance. Mmh. C'est un personnage très attachant et qui a pris. Alors là, on déflore sans déflorer, mais qui a pris la place du mari de Myriam sur le chantier, puisque le mari de Myriam était lui aussi tailleur de pierre. Il est tombé dans l'échafaudage. Et donc,
comme ça arrivait fréquemment. Benoît, hein, ça arrive
voilà.
Fréquemment.
Et donc Benoît le remplace. Donc il y a cette espèce de à la fois d'attirance pour cette femme qui le fascine parce que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel dans son courage, dans sa ténacité, et à la fois la réserve qu'on peut mettre évidemment parce qu'elle est veuve, parce que justement lui a pris sa place et que c'est pas bien vu de prendre la place d'un mort sur un chantier. Mais on pense toujours que celui qui a pris la place va attirer les pires ennuis à ceux qui s'en approchent. Donc il est un peu considéré comme un pestiféré alors que c'est un très bel homme et que bon voilà, je vous en dirai pas davantage sur Benoît.
Vous savez, en lisant de votre livre, cette mystère roue du temps, moi je l'appelle la roue du temps en fait, avec vos personnages, avec ces tailleurs de pierre, en fait je suis remontée un petit peu dans le temps, un petit peu 20 ans en arrière, on est en 494 on le dit, moi ça m'a fait penser un petit peu à l'Inquisition, vous savez.
On n'y est pas encore si loin. Hein.
C'est 20 ans, la Saint-Barthélemy, c'est 1572, 24 août 1572, donc c'est vrai, ça, je me suis dit, mais... Il y a quand même... oui, vous avez effleuré face à... Moi, ça m'y a fait penser. Voilà, je me suis... j'ai pensé à l'Inquisition, j'ai pensé à toutes ces horreurs.
Mais tout est là, si vous voulez. Tout est en souterrain. Alors, c'est vrai que le comté de Nice, à cette époque-là, dépendait des ducs de Savoie. Donc, on n'était pas proche vraiment de l'Inquisition, ce qui s'est passé en France, en Espagnol. Mais malgré tout, tout est là. Toutes les bases sont là. La superstition est là. Et la superstition fait que si on parle de sorcellerie, si on parle de diable, on a peur, forcément. On a très, très peur. Et encore plus quand il vient frapper à votre porte.
Oui. Et puis, on s'aperçoit aussi du pouvoir de la religion. On peut pas forcément, on n'est pas forcément libre de croire en ce que l'on veut ou en ce que l'on ne veut pas. Entre le diable et Dieu, c'est toujours très compliqué à ce moment-là.
Alors, imaginez quand en plus le diable sert la plus effroyable vengeance.
Ah oui. C'est ça. Oui. C'est vrai que
Est une histoire de vengeance.
Tout est une histoire de vengeance. Justement, on peut penser, moi. Tout au long du livre, je me suis dit, mais est-ce que cette roue du temps, ça n'est pas la venge du diable par rapport au bien ? Vous voyez ?
Mais je me rends compte, parce que le livre reçoit un superbe accueil de la part de mes lecteurs. Il est classé dans les meilleures ventes, bien sûr. Et puis,
tant mieux, bravo.
J'ai des retours extraordinaires dessus. Et mes lecteurs arrivent à imaginer des hypothèses auxquelles je n'ai pas pensé. Donc ça me plaît beaucoup, parce que finalement, j'ai tissé beaucoup plus.
C'est pour ça que quand je viens de vous poser la question... C'est pour ça que je vous ai posé la question, parce que je me suis dit, peut-être que... Voilà, mais ça interpelle. Et puis... alors, comme quoi votre livre, c'est pas seulement le livre, mais ça interroge aussi, vous voyez, sur le présent, le passé et l'avenir, sur le destin de chacun finalement. Est-il écrit ? Faisons-nous partie de cette roue d'une certaine façon sans le savoir ? Vous voyez ce que je veux dire ? Tous ces fils que vous tirez, dont on essaye de défaire les nœuds, et finalement on s'en fait un peu plus au cerveau, hein, de nœuds.
Bah, l'essentiel, c'est qu'à la fin, malgré tout... D'abord, l'essentiel, c'est que ce soit des nœuds agréables.
Oui.
Et pas quelque chose où on ne comprend rien.
C'est vrai, c'est vrai.
Voilà,
oui,
et,
c'est vrai.
Je pense que le livre est abordable pour
oui,
tout le
oui,
monde,
non, mais bien sûr,
à plusieurs niveaux,
non,
bien
mais
sûr.
On pose des questions, mais c'est très bien, parce que on vit le livre et on vit avec les personnages. Je vous avoue qu'Hersand, sans doute les auditrices et auditeurs qui l'ont lu ou qui le liront, a laissé une trace. Elle m'a poursuivie.
Oui. Mais je pense, oui, ouais, vous n'êtes pas la seule, effectivement. Mmh. Mais tous, le mot qui revient le plus, là, dans les. Parce que je fais beaucoup de salons du livre, comme
oui.
toujours, bien
oui.
sûr.
Mmh.
Et le mot qui revient le plus, c'est envoûtant.
Oui.
Par rapport au livre.
C'est
et,
vrai.
Et donc, c'est vrai que c'est.
Émouvant aussi,
ça
parfois.
Parle.
Émouvant
oui, aussi.
Émouvant
bien
aussi.
Sûr. Mmh. Mais envoûtant, oui. Mmh. J'ai pas mal de lecteurs qui m'ont écrit en me disant d'ordinaire, on sort de vos livres avec quelque chose, on n'arrive pas à le lâcher, on
c'est
a
vrai.
Envie d'eux
mmh.
Et on aime les personnages. Elle me dit, celui-là, il a quelque chose de plus
oui.
qui fait qu'on est envoûté. Il,
oui.
il est envoûtant. Et ça me touche parce que. Parce que ça a été exactement ce que j'ai ressenti à l'écriture.
Oui.
J'ai vraiment une espèce de griffe comme ça, et impossible de le lâcher, impossible de m'en détacher, impossible de ne pas en rêver. Enfin, ça a été vraiment tout le long de l'écriture et du travail dessus. Il m'a obsédée de manière très, très puissante.
Mais ça se ressent au travers du livre. Ça se ressent parce qu'il y a aussi une intensité. Ne serait-ce qu'avec les personnages, la rencontre avec les personnages. Et puis, vous savez, à chaque fois que l'on parle du temps, de la vie, de la roue du temps, la roue qui tourne, ça touche à chacun. Parce que ça touche
bien
à...
sûr, ça touche à chacun. Et en même temps, on est dans le quotidien de village. Et
oui.
Le lecteur peut s'identifier à n'importe lequel de ces personnages. Au
mais on oublie même que l'on est en 494.
Oui, c'est exactement ça. C'est ce que j'allais vous dire. Beaucoup m'ont dit, c'est vrai qu'on pourrait être à Utel aujourd'hui. Exactement,
oui,
de la même
tout
manière.
À fait.
D'abord parce
manière.
Que le village n'a pas changé, ou très peu. Je me suis amusée à partir
ah bah ça
de,
m'a donné
de,
envie
de
d'y aller parce
d'archives.
Que...
Ah, oui, voilà.
Oui, oui.
À partir de documents d'archives, j'ai demandé à un ami dessinateur de croquer le village tel qu'il était en 1494
mm-hmm.
pour que le lecteur voit. Mais je vais publier bientôt sur ma page Facebook des images du tel que j'ai prises moi sur les lieux, et vous verrez que ça a très peu changé en fait.
Oui, oui. Oui, c'est assez extraordinaire. Hein. C'est assez. Moi, il y a une chose que j'adore, et vous m'y faites penser. Peut-être que les auditrices auditeurs le font aussi. Quand un livre m'a passionné et que les lieux sont bien décrits, j'ai envie de les voir après pour retransposer l'action,
allez-y,
les personnages. Voyez, par exemple, je parle souvent de Ken Follett parce que moi c'est un auteur que j'adore. J'aime bien aller sur les lieux. J'ai envie
oui.
d'aller à la cathédrale de Kingsbridge. Si vous êtes une lectrice de Ken Follett,
voyez. J'y suis allée.
Voilà. Voilà. Et ben moi, j'ai envie d'y aller voir ce prieuré, bon, qui a probablement changé
bien
maintenant,
sûr.
Qui est un grand marché, aller voir cette cathédrale.
Ouais.
Voilà, ça donne envie. Et Utel, du coup, ben oui, on a envie d'y aller. Oui.
Et je vais vous dire, moi, j'ai eu un problème parce que je savais que le prieuré, tenu par le prieur Grimaldi,
oui.
qui est au bas dans la combe d'Utel,
oui.
Avait un moulin à huile. Et moulin à huile alimenté par de l'eau. Et or, quand je suis allée à Utel, bah, dans la combe, il n'y a pas d'eau. Et je me suis dit, mais mince, elle était où la rivière qui alimentait le moulin? Elle était où la retenue d'eau? Alors effectivement, il reste une espèce de puits,
oui.
C'est large. Quand je dis un puits, c'est la largeur d'une maison quand même. Hein.
Oui, quand même, oui.
Mais vous voyez, mais alors que c'est pas une mare, c'est une espèce de gros trou dont on sait que. Et je me suis dit, bah, à moins que la rivière soit partie dedans. Enfin, donc on a toutes les extrapolations possibles. Et il a fallu que je voie les images satellites pour retrouver le lit de la rivière.
Ah oui.
Vous voyez, donc du coup, à un moment donné, on se dit, allez, la configuration du lieu, elle est là, mais je sais qu'il y a eu plus, comment et pourquoi. Donc c'est vrai que, et puis c'est vraiment un très très bel endroit. Vraiment,
oui.
allez-y. Là, je parle à vos auditeurs et auditrices. Allez-y si vous en avez l'occasion, parce que ne serait-ce que pour passer des vacances, c'est
oui.
vraiment très.
En
très,
espérant
très chouette.
Que ne la roue. Ne.
Mais non, mais de toute façon, elle est quelque part, et
oui,
il y a des familles d'assassins dans le monde entier.
Bien
donc,
sûr, bien sûr.
Allez savoir. Hein,
allez savoir. Allez savoir.
Non, moi, je veux croire que les belles personnes ne seront jamais sur
oui.
la
route. Oui. C'est ça aussi. Avec votre roue, entre guillemets, avec votre roue, c'est qu'on se dit que finalement, le bien est protégé.
Oui, 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 le bien protégée, mais en êtes-vous si sûr?
Point de suspension. Point de suspension.
Point de suspension. Vous savez quand même que j'ai terminé l'écriture du livre le jour, vraiment la fin des corrections et tout ça, je l'ai remis à mon éditeur, cette version terminée, le jour de l'Assemblée de Notre-Dame.
Mmh. Ah oui, c'est incroyable.
Ça fait poser des questions.
15 avril. Eh oui, 15 avril.
Ça fait poser des questions.
Oui. Ça fait poser des questions. Eh bien, écoutez, on va se poser la question. La prisonnière du diable aux éditions XO avec Mary Calmel. Alors, rapidement, vos prochains projets d'écriture, dites-nous.
Oh, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. D'abord, et ça, je pense que je peux l'annoncer maintenant, puisque ça y est, le contrat est quasiment bouclé. Vous devriez avoir, pour la fin de l'année prochaine, le premier tome de la BD du Lit d'Aliénor.
Voilà.
Ah, donc, le Lit d'Aliénor en BD, voilà, avec un dessinateur que j'ai choisi, avec une coloriste que j'ai choisie. Et ça sera un partenariat entre XO et
D'accord, donc ce sera en 2020.
Voilà, ce sera en 2020. Il y aura un autre livre, évidemment, pour le printemps, mais là, pour l'instant, je ne peux pas trop vous en parler.
D'accord.
Hein, probablement du côté juste de Carcassonne. C'est un
D'accord.
Avis, c'est tout. Voilà. Et puis, peut-être, là, je suis en train de négocier aussi, donc on va voir. J'ai très envie, et Belin m'a fait un appel du pied. Alors, c'est pas, je le dis tout de suite, hein, je ne fais absolument aucune infidélité à mon éditeur.
Oui. Il faut garder XO, ils sont formidables chez XO.
Ah, non, mais
ils sont
très XO, bien. Je suis très attachée à la marque XO, donc hors de question de partir ailleurs. Simplement, je pense qu'il faut donner le goût de la lecture aux enfants.
Ah oui.
Beaucoup de lectrices m'en parlent depuis longtemps, me demandent quand est-ce que je fais un livre pour les enfants. Donc, il y aura un petit roman historique qui sera jumelé avec les programmes scolaires. Ce sera pour les CM1 et CM2, probablement l'année prochaine chez Bella.
Eh bien, écoutez, on vous retrouvera avec tous ces beaux projets avec plaisir. En attendant,
je n'ai pas l'intention de chômer.
Donc, en attendant, La prisonnière du diable aux éditions XO, en espérant que les auditrices auditeurs n'en seront pas prisonniers. On peut leur en souhaiter, en tout cas.
En tout cas, moi, je suis certaine qu'ils arriveront à sortir de ces griffes.
Je pense.
Et qu'ils garderont au cœur quelque chose de plus.
Je pense aussi.
Moi, quoi qu'il en soit, de toute façon, je les embrasse très
C'est très gentil.
Je vous embrasse tous et je vous souhaite un merveilleux été.
Merci, Mary Calmel. Comme d'habitude, ça a été un vrai bonheur de vous écouter et de vous entendre. Et je vous dis à très bientôt.
À
Merci.
Très bientôt.
Au revoir. Au revoir.